début d'année, c'est quand même des années bizarres qu'on vit. Et ça me frappe toujours quand même de voir, je dirais, l'incertitude devant laquelle on se trouve. C'est plein de points d'interrogation. On est plein d'inquiétudes face à la fragilité du monde. Ça nous oblige à nous repositionner, à réfléchir. Et quelles sont les choses dont on a besoin? Quelles sont nos instructions pour le futur? Qu'est-ce qui va arriver? Quelle attitude avoir? Ben, je ne suis pas le premier à poser ces questions. Hein. On a eu ces dernières fois plusieurs messages. Par exemple, Stéphane, il y a un mois et demi, nous avait parlé de. Il était parti sur Luc 21, l'histoire, le sermon, comment on appelle ça, le discours sur le mont des Oliviers, où Jésus répond à la question, mais qu'est-ce qui. Quand les disciples lui demandent, mais qu'est-ce qui va arriver? Quand ça arrivera? Comment? Pourquoi? Et il répond à cette question, comment reviens-tu? Et ben, Stéphane nous avait exhortés à veiller et prier. L'été dernier, si je me rappelle, Daniel nous avait lu un passage dans 2 Pierre sur l'attente de Jésus. Et ça m'avait vraiment frappé parce que la question, c'était qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que j'attends? Puis pourquoi attendre? Quelle est la raison d'attendre? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion? Il y a devant nous des choses qu'il faut attendre. Qu'est-ce que ça produit tout cela? Moi, ce qui m'avait frappé cet été, c'est que je m'étais dit, qu'est-ce qu'on attend? Franchement, qu'est-ce qu'on attend quand le Seigneur revient? Ben pour moi, c'était, mais on attend d'être en fait dans la paix, dans le repos, quand toutes ces choses difficiles seront derrière. En fait, on attend d'être au ciel, on est débarrassé de toutes ces incertitudes, de tout ce qui nous pèse. Puis je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est vrai que j'attends ces choses, mais si je réfléchis, j'attends plutôt ces choses. Ben, je vieillis. Dans quelques années, j'espère pas trop près quand même, mais dans quelques années, ben, je vais connaître ça, je vais être avec Jésus. Être avec Christ, c'est de beaucoup meilleur. Nous serons, une fois qu'on sera mort, dans la paix auprès de Dieu, dans le ciel, c'est vraiment. Oui, c'est ça que j'attends. Mais ce n'est pas le retour du Seigneur. Quand moi je vais vers lui, ce n'est pas quand lui vient. Est-ce qu'on attend vraiment Jésus, son retour, ou est-ce qu'on attend la paix, sa présence? Être avec lui. Et je vais simplement lire 3 passages qui nous parlent de l'attente de Jésus parce que je les ai trouvés très surprenants. Qu'est-ce qu'on attend? Pas tellement ce que moi j'attends. Qu'est-ce qu'on attend? Le premier passage, celui qui m'avait frappé, c'est celui que Daniel nous avait lu au mois d'août. C'est dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 3, si tu peux le projeter. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments brasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez, attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Qu'est-ce qu'on attend? À quoi est-on exhorté d'attendre la destruction du monde? Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, ce n'est pas tellement quelque chose que j'attends avec impatience. Et cependant, il nous dit, attendez et hâtez la venue de ce jour où tout sera détruit. C'est ce que j'appelle de mes voeux. Mais il dit une deuxième chose. Nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Attendre la justice, c'est déjà mieux que attendre la destruction du monde. Mais est-ce que j'attends vraiment la justice? C'est quoi la justice? On a soif de justice envers nous-mêmes quand on nous critique, qu'on reconnaisse les efforts qu'on a faits. On a envie que quand on fait quelque chose de bien, il y en ait des bons résultats. On a envie que le monde soit plus juste. Ce monde plein d'injustices nous gêne. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai soif? C'est quoi une terre où la justice habitera? Mais ça veut dire une terre, un monde qui sera totalement cohérent, dans lequel les choses seront normales, justes, un monde où tout ce qui devrait être sera. C'est déjà un peu plus une chose qu'on attend, mais c'est lointain. Ce n'est pas tellement au centre de mes préoccupations. Deuxième passage, c'est dans la première épître aux Thessaloniciens. Paul écrit « De fait, on raconte à votre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. » Deuxième attente qui nous est présentée, d'ailleurs il y a d'autres passages que ceux que je vous mentionne là, j'ai juste choisi ceux-ci, mais ils m'ont frappé particulièrement. Celui-ci, on attend Jésus, on se tourne vers Dieu, on répond à l'évangile et en fait on le répond pour attendre du ciel. Vous voyez comme c'est dit, vous êtes abandonné les idoles pour servir Dieu, mais dans quel but? Pour attendre, ce qui est assez curieux. Et attendre quoi? Celui qui nous délivre de la colère à venir. On attend le retour de Jésus pour qu'il nous délivre, non pas de nos malheurs, non pas de notre souffrance, mais qu'il nous délivre de la colère à venir. Est-ce que ça veut dire que son retour va nous délivrer des jugements qui vont arriver sur la terre? Dans un certain sens, non, peut-être en partie. Essentiellement, ces jugements qui sont promis à la terre, on va les vivre et on en parlera tout à l'heure. C'est quoi ? Être délivré de la colère à venir. Mais quand Jésus parle de son retour dans Matthieu 24, il termine dans Matthieu 25 pour dire, je ne crois pas que je l'ai mis, non. Matthieu 25, verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, quand Jésus reviendra, il s'assiera sur son trône de gloire. » Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il met les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, un peu plus loin, verset 40, et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait une bonne chose à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Verset 45, il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela, l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Quand Jésus revient, bien, il vient pour trier. Jésus revient, eh bien, il trie. Il y a ceux qui auront connu, qui auront répondu à son appel, qui auront porté du fruit, qui auront eu la vie de Dieu, qui iront dans la vie éternelle, mais il y a tous les autres qui qui rend dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, une peine éternelle. Jésus revient, c'est salut, mais c'est salut de quelque chose auquel on échappe. On est sauvé, mais par notre nature même, on serait perdu. Et ce retour de Jésus, eh ben c'est le salut, mais c'est la délivrance des peines éternelles. C'est la délivrance de cette colère à venir. On échappe à quelque chose. Et ça me frappe de penser que quand on nous parle d'attendre le retour de Jésus, ça nous dit, vous allez échapper à quelque chose. On se dit, mais est-ce que j'attends simplement d'échapper à quelque chose? Oui, j'attends la vie éternelle. Mais pourquoi il nous délivre de la colère à venir? Ce n'est pas une chose qui est une attente, me semble-t-il, pour moi-même. Et le dernier passage, c'est dans Tite, les versets, chapitre 2, versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et faire un peuple, et se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour de belles œuvres. Nous attendons une bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Essentiellement, ce que nous attendons, c'est Jésus. Le retour de Jésus. Il y a toutes sortes d'autres aspects, mais au centre, parce qu'il est au centre de tout, on attend Jésus. C'est ça vraiment l'attente. Alors pourquoi toutes ces autres indications qu'on vient de lire. Moi je me disais, c'est pas ce que j'attends ces choses-là, mais c'est ce que Dieu attend. Dieu attend que enfin la justice règne. Dieu attend que enfin tout ce qui est faux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui fait souffrir puisse être liquidé, ôté, arrêté. Dieu attend qu'il n'y ait plus de péché. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Eh bien, quand Jésus reviendra, il y aura plus de péché dans ce monde renouvelé, ce monde nouveau. On l'a vu, tous ceux qui ont péché, tout ce qui est jugé est ôté du monde. L'enfer, si on peut dire, c'est un peu simple de dire ça, mais c'est, on a retiré du monde dans lequel est Dieu, on a retiré tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est faux, tout ce qui est injuste. Le péché est ôté. Et je crois que Dieu se réjouit. Il a créé toute chose, il conduit toute chose. C'est son attente, c'est que tout ceci soit fini. C'est l'attente de la création aussi. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, il parle de cette création qui attend la rédemption, qui attend le salut, qui attend que les enfants de Dieu soient restaurés, elle attend le renouvellement. La création attend, Dieu attend, Jésus attend. Il a dit qu'il a accompli l'œuvre de la croix, il a méprisé la honte de la croix à cause de la joie qui était devant lui. Jésus se réjouit de revenir, il attend de revenir. Il reviendra le plus tôt possible. Il y a un verset qui dit, qui parle de la patience de Dieu. Il ne tarde pas, dit-elle, il se réjouit. Et j'ai l'impression que c'est ça la clé. Qu'est-ce qu'on attend? on n'atteint pas tellement notre propre bonheur, on n'atteint pas tellement, non, notre attente, elle est centrée sur Dieu, sur ce que Dieu attend, sur ce que lui désire. Je crois que toute la Bible, finalement, elle ne nous parle pas tellement de nous-mêmes, ou pas seulement de nous-mêmes, elle nous parle du cœur de Dieu, de ce que Dieu lui veut faire, de ce que, en quoi lui se réjouit, et il nous associe à cette joie. Mais ne centrons pas toujours les choses sur nous-mêmes, n'attendons pas les choses pour nous-mêmes, n'attendons pas ces choses-là simplement pour, comme je le disais au début, pour être bien, pour être enfin dans la présence, apprécier Dieu, c'est très vrai. Mais finalement, ça met les choses sur moi. Et c'est Dieu qui est important, c'est Jésus qui est important. Tout est centré sur lui, pas sur nous. Et quand on lit des passages comme ça qui nous parlent d'attente, ce n'est pas tellement notre attente, mais c'est l'attente de Dieu. Et il nous invite à partager cette attente, à attendre aussi comme lui. Pas attendre qu'on soit bien, mais attendre que enfin les choses soient parfaites. Enfin les choses arrivent au bout. Une des clés de la vie chrétienne, une des clés de la lecture de la parole, c'est de réaliser que elle est d'abord orientée, elle parle de Dieu, c'est lui qui est au centre avant nous-mêmes. Et on la lit toujours dans l'autre sens, c'est assez naturel. Hein. Mais je crois que c'est une des choses qui rend la Bible difficile à lire des fois, c'est qu'on ne se met pas dans le... pour être impoli, dans les mocassins de Dieu, on se met dans nos mocassins. Non, elle parle de Dieu et Dieu veut nous parler de son cœur et de ce que lui pense. Et quand il nous parle d'attente, ce n'est pas seulement l'attente de nuit, c'est partager son attente à lui. Et cette notion d'attente est beaucoup plus importante qu'on le pense. Au mois de novembre, Stéphane nous avait lu Luc 21, où Jésus répond à cette question de... Quand arriveront ces choses? Quels sont les événements qui marquent ton retour? Et si on lit attentivement ce passage du discours sur le mont des Oliviers, il parle de guerre, de tremblements de terre, de persécutions, de choses vraiment difficiles. Et Jésus dit que personne ne vous égare, ce ne sera pas encore la fin. Toutes ces choses terrifiante qui semble annoncer, c'est pas encore la fin. C'est pas des signes que c'est la fin. Ensuite, Jésus développe un peu, il parle de ce qui va se passer à la destruction de Jérusalem, puis il élargit ça pour montrer que vers le futur, il y a des choses devant, mais elles sont assez ambiguës, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Une fois qu'il a parlé de ça, il répond un peu bizarrement à la question des disciples, quand et quels seront les signes. Il termine en disant, quant au jour et à l'heure, c'était la question des disciples, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Restez vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et Jésus insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas le seul endroit où il parle de ça. Au début des Actes, il le dit aussi. Dans plusieurs passages, c'est dans Pierre, sauf erreur, il y a aussi l'histoire du déluge. Le déluge, il a pris par surprise tous ceux qui étaient là, tout le monde marchait, se mariait, vivait normalement, mangeait, buvait, et tout à coup, par surprise, le déluge est venu. Par surprise, Jésus reviendra. Quels sont les signes de ta venue? Ce qui frappe en lisant ces passages, c'est que ce n'est vraiment pas clair. Ce qui frappe en lisant l'Apocalypse, c'est que Dieu a pris un soin particulier, en inspirant l'Apocalypse, de faire qu'on parle en symbole qui montre un peu qu'est-ce qui se passe dans le ciel, comment ça s'articule. Il prend vraiment soin à ce qu'on ne puisse pas prendre ces images un peu gothiques pour dire c'est comme ça que ça se passe. Dieu a pris soin qu'on ne puisse pas vraiment dire « Ah, ça, c'est ça ». Il veut qu'on reste dans l'attente. Et tout au long de l'histoire, on a pu dire, en lisant tous ces signes, « Ah ben c'est maintenant ». Tout au long de l'histoire, depuis le début d'ailleurs, même depuis du temps des apôtres, on se disait « Ah ben ça va venir ». Et c'est exactement ce que Dieu veut. Il a voulu que tout au long de l'histoire, à chaque moment, on soit dans l'attente. Il ne faut pas attendre des choses extraordinaires. Quand Jésus arrivera, ce sera une surprise. Et il insiste sur ça. Et je crois que c'est important parce que ça fait partie du plan de Dieu. Et chaque fois qu'on cherche à comprendre, à expliquer, à dire « Ah, il va revenir », eh bien, on s'est trompé tout au long de l'histoire. Il viendra un moment où on ne se trompera pas. Mais l'important, c'est d'attendre et de ne pas être là dans une... à dire « Ah ben oui, les Juifs sont rentrés à Jérusalem, ça montre que ça va bientôt arriver. » Peut-être que oui, peut-être que non, on n'en sait rien. Attendre, ça peut être aujourd'hui, ça peut être il y a 100 ans, ça peut être dans 100 ans, on n'en sait rien, mais on doit attendre. Et de toute l'histoire, il a fallu attendre. Maintenant, on a le Covid, maintenant, on a le dérèglement climatique, maintenant, on a les ressources de la Terre qui s'épuisent, maintenant, on a la pollution, plein de choses inquiétantes qui nous disent, mais on doit arriver au bout. Ben oui, pourquoi pas? L'important, c'est d'attendre. Et ces événements qui nous interrogent, ils sont là, je dirais, pour nous rappeler qu'on est là provisoirement. Ils sont là pour nous rappeler que Jésus va revenir. Mais ça peut être toujours. Et notre attitude doit être d'attendre. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu a rédigé ou fait rédiger la Bible de cette manière-là. Nous maintenir dans une attente. Il y a des tas de raisons pour ça. J'ai réfléchi à beaucoup, mais je vais juste terminer avec, disons, trois raisons. La première raison de cette attente, de tout ce qu'on a dit, c'est nous faire réaliser une bonne nouvelle. C'est que nous sommes sauvés du jugement. Ce monde sera détruit, ce monde sera fini, ce monde est jugé. Et nous, mais par grâce, par un cadeau de Dieu, eh bien, même si on meurt, et on mourra tous, et même si dans les catastrophes qui pourraient venir, on peut en subir les conséquences, on est sauvé du jugement. Pas du jugement de ce monde, pas des conséquences de nos péchés, mais on est sauvé du jugement éternel qu'on méritait. Et je crois qu'il faut réaliser que c'est une bonne nouvelle. C'est que si Dieu n'était pas intervenu, ben on mérite un jugement éternel, une séparation de lui. Et le fait d'être dans l'attente de son retour, c'est nous rappeler que c'est vraiment un incroyable cadeau qu'on soit sauvé du jugement, alors que quand on marche ici-bas, on est si médiocre parfois, si mauvais, on mérite vraiment pas grand-chose. Et Jésus revient et on échappe au jugement. On ne mérite pas le ciel en aucune manière. On mérite un jugement, mais on en est sauvé. Et on peut atteindre cela. Une autre chose, je me suis dit, une des choses dont on parle, c'est dans le groupe d'hommes, c'est nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Mais cette attente nous dit, c'est une des bonnes nouvelles, c'est qu'on n'est pas du monde. On se dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. On se dit, c'est pas très confortable. On est dans ce monde, puis on n'en est pas en même temps. On ne sait pas comment ça s'articule. Mais ce qu'on réalise, et c'est ce que ces passages nous montrent, que n'être pas du monde, c'est un cadeau. On n'est pas du monde, on ne va pas avec le monde. Dieu nous a séparés du monde dans ce salut qu'il nous a accordé. Alors, être dans le monde, mais pas du monde, eh bien, c'est quand même cadeau. Parce que ça veut dire qu'on ne partage pas le destin de ce monde. Et j'insiste parce que je crois qu'on ne comprend pas assez à quel point ce monde est mauvais, à quel point les choses qui s'y passent, qui nous choquent, elles choquent Dieu, et Dieu les jugera. Mais je dirais une autre chose, ça m'a fait réfléchir aussi, c'est qu'on est dans ce monde aujourd'hui. On a devant nous ces interrogations, on attend, mais c'est pas si simple d'attendre avec patience, d'être conscient de tout cela. Dans Romains 8, il est dit que la création soupire, et nous aussi nous soupirons. Alors au début d'une année, face à cette réalité que le Seigneur revient, mais cette réalité complexe du monde dans lequel on est, qui est condamné, une attente qui est l'attente de la gloire de Jésus plutôt que de notre facilité, je dirais. Comment faire ? Comment attendre ? On a besoin de Dieu. On ne le fera pas naturellement. Dieu ne nous donne pas des clés, des encouragements qu'on peut prendre clé en main. Non, il y a besoin de son intervention, il y a besoin du secours de l'esprit, c'est tout un chemin pour vivre ça. Et comment Paul finit, après avoir parlé de ce monde qui soupire, et nous-mêmes qui soupirons, après avoir dit qu'on ne sait pas comment prier, mais qu'est-ce qu'il dit pour terminer cette épître comme encouragement? Et j'aimerais terminer par là, si tu peux mettre le dernier passage. Je vais le lire attentivement. Ça ne parle pas du tout du retour du Seigneur, mais quelle est notre ressource? Quelle est la possibilité qu'on a d'aller jusqu'au bout malgré tout? Romains 8, 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? On parlait tout à l'heure des pensées qu'on a sur nous-mêmes, et qui sont des fois des pensées de condamnation. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce, comme c'est le cas dans ce monde, la détresse, l'angoisse du futur, la persécution, même la faim, le dénuement, le danger, l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On peut attendre avec sécurité. On n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin d'explication, on n'a pas besoin parce qu'on n'est pas seul. On a quelqu'un qui est pour nous, avec nous. Et on attend la justice, on attend que tout soit réglé. Et on peut attendre en étant certain qu'on arrivera au bout, certain que ce salut qu'on a reçu, il tiendra jusqu'à la fin. N'ayons pas peur. Oui, les choses peuvent être très difficiles, mais l'essentiel est garanti. Pour les petites questions de discussion, je me suis dit, mais comment peut-on parler de cela? Et je me suis dit, on peut faire autre chose. Si tu passes le suivant, je reprends ce passage de Tite. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. Ben oui, il y a ça, on attend. Mais comment attendre? Alors, tu nous en avais parlé, et puis on en avait réfléchi cet été à ça aussi. Mais je me suis dit, Dieu nous dit, dans cette attente-là, vous avez à vivre aujourd'hui conformément à la sagesse, la justice et la piété. Mais ça veut dire quoi? Comment vivre sagement? Comment vivre justement? Comment vivre pieusement, concrètement? Ben, c'est ce que je vous suggère de faire par petits groupes, de réfléchir à ça. Comment moi je peux vivre sagement, justement, pieusement? Quelles sont mes ressources? Quels sont peut-être les obstacles? Mais on a besoin d'être sage, on a besoin d'être juste, on a besoin d'être pieux. Ça, c'est l'appel de Dieu en l'attendant. Ça ira? Ben, Seigneur, moi j'aimerais simplement te demander que cette attente soit réelle pour nous. Te demander que le fait qu'on ait un tout petit, un moment dans l'éternité, on ait un tout petit quelque chose de pas grand chose dans l'univers, et puis on attend. On attend des grandes choses, on attend une nouvelle création, on attend et on fait partie de quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais ma prière, c'est que dans ce petit moment où on est aujourd'hui, on puisse vraiment attendre, vraiment réaliser que ce monde est, on n'en est pas, quoi, et qu'on a à y vivre. Et je te prie de nous aider à y vivre de la manière qui hâte ton venu, ton retour, qui fait que les choses avancent. Alors Seigneur, aide-nous à faire avancer les choses. Dirige-nous dans ces moments de réflexion, Seigneur, qu'il y ait des pistes qui puissent être découvertes par les uns et les autres. Amen.